Nous sommes toujours en compagnie de Daniel Pénac à l'occasion donc de la parution chez Gallimard de son roman Le Camalocène, reprise 18 ans après de votre saga à succès. Bernard Lehu nous le racontait tout à l'heure. Daniel Pénac, l'intrigue tourne autour de l'enlèvement d'un homme d'affaires véreux dont les ravisseurs réclament une rançon équivalente à son parachute doré. Derrière le récit d'aventure loufoque, Le Camalocène est-il aussi ce qu'on pourrait appeler une charge sociale ?
Moi, je me suis documenté. Par exemple, sur les parachutes dorés, 21 807 204 euros, ça vous paraît extravagant. Mais c'est la moyenne. C'est la moyenne milieu. On peut en citer nommément qui ont été un peu en dessous, quelque peu au-dessus, pas énormément au-dessus. Mais oui, donc un homme d'affaires se fait enlever le jour où il va toucher le chèque de son parachute doré. Et c'est exactement la somme que vont réclamer les ravisseurs, 22 807 204 euros. Et nous avons calculé avec mes copains du Vercors, là j'arrive du Vercors, hier j'étais dans le Vercors, et à la bascule à Bassieux, on était, nous avons calculé que ça faisait 30 ans d'apéro.
Ah bah oui, dit comme ça, voilà, ça me choque énormément.
Vous voyez, on mesure pas le drame, parce que 30 ans d'apéro.
Mais ça met une question, on l'a compris, l'époque est très présente, il y a une critique de la télé-réalité, d'Internet. Est-ce que Malocène ne virerait pas un peu au vieux réac ? À force d'aller au bistrot, vous voyez ce que je veux dire ?
Ben, réac, vous savez, aujourd'hui c'est compliqué parce que être réac, c'est être de gauche. Hein, quand aujourd'hui les gens vous disent « Oh non mais ça c'est Pénac, ça c'est cette espèce de vieille gauche. » Sans blague, hein, c'est réac aujourd'hui, l'équivalent dans la bouche, normalement, comme ça, qui se répond, c'est être de gauche. Malocène est un peu de gauche, oui, je dois reconnaître, c'est vrai. Mais ça ne veut pas dire grand-chose parce qu'il est assez peu actif, par ailleurs. C'est dans sa tête.
Alors, sur Internet, donc, il y a une charge aussi là, sur Internet, Google, et vous dites notamment c'est la fin du rêve, puisque désormais, quand on vous dit quelque chose, on va tout de suite vérifier mais si oui. C'est vrai ou pas sur Internet, et cette dimension du rêve
disparaît. Oui, c'est une autre partie du bouquin. Ouais. C'est-à-dire que dans ce livre, il y a un autre personnage très important qui est Alceste.
Alceste, un écrivain.
Et Alceste, c'est un écrivain de vérité vraie.
Les VV, comme dit la
reine Zabo, son éditrice, elle s'appelle les VV. Elle a racheté tous les VV qui publiaient dans toutes les maisons d'édition alentour. Et le fait est que, et l'histoire d'Alceste est la suivante, le pauvre, c'est un orphelin auquel ses parents racontent, ses parents adoptifs,
ses origines.
Les histoires de ses parents réels, qui sont des gens extraordinaires, merveilleux. Et puis,
des vulcanologues, c'est ça hein,
Oui, les siens sont des vulcanologues, merveilleux, héroïques, etc. Et puis un jour arrive Internet, Google, du jour au lendemain. Et le pauvre Alceste, évidemment, tape sur Google le nom de ses parents, de ses véritables parents, ce que lui racontent ses parents adoptifs. Et il s'aperçoit qu'ils n'existent pas, qu'ils n'ont jamais existé, que tout ça, c'est de la blague. Et c'est, en effet, grâce à Google. Tout d'un coup, tout ce qui fut est saisi dans un immense filet qui englobe la Terre tout entière, pas moyen d'y échapper. Et il s'aperçoit que ses parents n'ont jamais existé.
Alors, on vous sent un peu ironique, malgré tout, vis-à-vis de cette mode de la littérature autobiographique, de ces VV, la vérité vraie. La pure fiction est menacée aujourd'hui, Daniel
Pénac ? Mais elle a toujours été. Elle a toujours été. Je vous dis, dans les années 80, on avait donc le structuralisme qui décrétait la mort du héros, la fin de l'anecdotique, de l'histoire, de l'histoire narrative. Mais même encore, là, je me suis fait allumer il n'y a pas très longtemps, quand là, au masque. Et la plume avant-hier, par des gens qui disent « Non mais moi je ne peux plus lire cette littérature narrative, ce n'est rien !» Mais ça les fout dans des fureurs. C'est comme si on cherchait à les infantiliser. Comment oser nous proposer du récit, nous qui sommes si futés,
et des histoires.
Donc là c'est un type de désir de domination qui dure depuis maintenant une cinquantaine d'années en France. Mais cela dit, c'est pas les VV, parce que les VV, prenons l'autofiction par exemple, vous avez, quand vous lisez Annie Ernaux, vous êtes devant un gigantesque écrivain qui écrit au plus près. ça, et ça, c'est absolument merveilleux. Elle écrit, c'est extraordinaire de lire un livre d'Annie Ernaux, parce qu'on est, on approche absolument la réalité de l'être, et c'est magnifique. C'est donc pas l'autofiction en elle-même. Ce qui me fait rigoler, c'est les gens qui se prennent pour leur propre statut. Ça, ça me fait marrer.
Et Vlan.
Oui, non, mais ça, il y en a un certain nombre.
Alors, on l'a dit, le Camalocène aura une suite. Est-ce que le second volume est déjà prêt? Quand pourra-t-on le lire? Est-ce que ce sera vraiment la fin des Malocènes?
Va savoir. J'ai écrit le premier chapitre.
Ah, un bon début. Mais ça ne suffit pas, Daniel Pénac.
Ce qui doit foutre la trouille à mon éditeur, vu la rapidité avec laquelle j'écris, la suite pourrait bien naître dans 5 ans.
Eh bien, on attend ça, avec impatience. Est-ce que, alors, Daniel Pénac, on connaît votre goût, votre talent pour la lecture sur scène. Je vais vous demander une petite faveur. Est-ce que, pour finir, vous pouvez nous lire, tout simplement, c'est moi qui ai choisi, hein, les premières lignes, donc, de ce cas Malocène, où on va retrouver cet affreux Georges Lapieta, cet homme d'affaires véreux.
Quelle bonne idée.
Il n'est pas, c'est pas un affreux.
Oui, c'est vrai.
Alors, voilà sa présentation. Donc, Lapieta, Georges. Ah, tu le connais. C'est le genre de type à se rouler dans la confidence comme un chien de ferme dans la fosse à Purin. Ce mouvement hélicoïdal qui les torchonne du museau jusqu'à la queue. Il est pareil, il en fout partout. Alors autant entrer tout de suite dans l'intérieur de sa tête. Il n'y a pas d'indiscrétion, lui-même m'a tout raconté au gosse ce jour-là. A commencer par la minutie avec laquelle il s'est préparé pour aller toucher son chèque. Et ses bonnes raisons de ne pas arriver à l'heure. J'ai toutes les cartes en main. J'arrive à mon heure, je palpe mon fric et on se tire en vacances. Voilà ce qu'il voulait faire comprendre à l'aimable comité.
Et le chèque, on le rappelle, 22 807 204 euros.
C'est agréable, une leçon de lecture. Hein.
On sent que vous faites des enregistrements de...
Oui.
Mais non, je suis un vieux prof. J'ai lu toute ma vie à mes élèves.